suis heureux ce soir de recevoir donc, au nom de toute l'équipe de la librairie Jean Calvin d'Alès, M. Francis Hillman. Le professeur Francis Hillman a été directeur de l'Institut d'Histoire de la Réformation à Genève. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages. Et il a dirigé tout récemment en collaboration avec M. Bernard Roussel l'édition des œuvres de Calvin dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Donc voici un exemplaire. Alors ce très beau travail redonne enfin sa place à Calvin dans la galerie des grands écrivains français, exauçant ainsi le vœu du professeur Bernard Contret qui souhaitait que ce 500e anniversaire serve aussi à la connaissance de ce génie littéraire. Voilà, c'était le souhait ardent de Bernard Contret dans les émissions de radio notamment qu'il a fait sur Canal Academy. Et je remercie donc notre orateur de ce soir de nous consacrer de son temps, d'avoir accepté d'être le quatrième conférencier de ce petit cycle en vue de la commémoration du 500e anniversaire du réformateur de la naissance de Jean Calvin. Alors, la librairie Jean Calvin a souhaité organiser ces rencontres afin d'arracher Calvin à cette image austère, pour ne pas dire noire, véhiculée depuis de nombreux siècles. Je pense notamment à des hommes comme Jérôme Bolsec, qui ont été des propagateurs de cette image austère, sévère, noire de Calvin. Marianne Carbonnier nous a démontré dans sa conférence comment cette image s'est véhiculée donc au travers des siècles. Calvin, osons-nous dire, est un homme d'une rare actualité. Sa langue l'est incontestablement, sa volonté de séparer les registres ne l'est pas moins, etc. Alors bien sûr, beaucoup de choses ont été dites sur l'actualité de l'action et de la pensée de Jean Calvin. Or, les exagérations, les raccourcis, les anachronismes et l'instrumentalisation guettent bien souvent cette volonté d'enjamber le fossé des siècles et de faire de l'histoire, au fond, une science productive. J'ai envie de dire une science efficace et applicable pour aujourd'hui, satisfaisant notre goût de l'immédiateté et du concret, ce qui prime, me semble, bien souvent dans notre société. L'historien se méfie de ces discours, ce qui ne signifie pas, je l'ai dit déjà, qu'il faille renoncer à découvrir la pertinence de la pensée de Calvin. Mais cela nécessite alors de tourner le dos à son temps, de faire l'effort, j'ai envie de dire, d'oublier pour mieux se souvenir. Oublier son siècle pour s'immerger dans ce 16e siècle européen qui fut celui de notre réformateur. Alors, étonnement, comme l'explique le philosophe Olivier Hebel, même la doctrine de la prédestination devient un message libérateur. Quel étrange parcours, au fond, de voir cet homme qui, sans chercher à être pertinent pour son temps, est devenu, selon le mot de Ferdinand Buisson, Ferdinand Buisson a écrit une magistrale biographie de l'opposant à Calvin, Sébastien Castellion. Donc, cet homme devenu un génie organisateur. Le mouvement de désacralisation évoqué dans l'introduction du volume de la Pléiade oblige Calvin à ériger la parole de Dieu au centre de tout. La Bible semble alors propulser cet homme dans la modernité. N'est-ce pas là, au fond, une démonstration que le retour aux sources n'est pas toujours synonyme d'obscurantisme? Voilà, je vous laisse la parole. Monsieur Francis Hillman.
Je vous passe la conférence. C'est très bien.
J'introduis.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus sacrifier ce beau soir d'été à venir écouter quelque chose que j'ai intitulé « L'actualité de Jean Calvin ». Tout en connaissant exactement ce que M. Belloir vient de dire, qu'il y a tous les pièges possibles si on veut parler de la modernité et de l'actualité de Calvin. Enfin, on ne peut pas tout faire, j'ai essayé de préparer un petit texte. D'abord de remarquer que, évidemment, et il ne faut pas rater le coup, tout est là à côté, vous avez 80 ouvrages, vous avez dit sur Calvin.
80 titres. Oui.
80 titres à côté, ne ratez pas. Et moi, j'ai compté 17 titres d'ouvrages publiés en 2009 sur Calvin, et c'est loin d'être exhaustif, cette collection. Et je n'ai pas parlé des autres langues, hollandais, l'allemand, l'anglais, le coréen, sûrement, mais je ne sais pas vous en renseigner. D'ailleurs, plusieurs de ces nouveaux titres recoupent très simplement mon titre de ce soir, Jean Calvin et notre temps, actualité de la réforme, de Henri Babel, grand prédicateur de Genève, ou bien Jean Vito, Jean Calvin, de la réforme à la modernité, apparaître en novembre, c'est pas encore sur les rayons. Et voilà. Donc, c'est une question qui intéresse, je présume. Alors, je ne peux pas faire le tout, je ne peux pas, certainement pas faire à l'état présent des études calviniennes, heureusement pour vous. Je veux faire trois choses. D'abord, quelques remarques sur, pour ainsi dire, le profil de ces auteurs 2009, de Calvin. Ensuite, parler de deux thèmes qui, pour avoir été et pour être encore tellement controversés, représentent quelque chose de vivant, d'actif dans la pensée de Calvin encore de nos jours, pour le bien ou pour le mal. Bon. D'abord, ce que je remarque parmi les auteurs des ouvrages publiés en 2009, ou juste avant, je pense à Olivier Millet, dont l'édition, magnifique édition de l'institution de religion chrétienne, date de novembre, je crois, de l'année dernière, il y a un contraste considérable entre les auteurs d'ouvrages et les éditeurs des œuvres de Calvin au début du siècle dernier, c'est-à-dire après le 400e anniversaire de Calvin. La scène, et ce n'est pas une méchanceté ce que je veux dire, il y a plusieurs pasteurs dans la salle, la scène était dominée par les théologiens et les pasteurs, ce qui est logique, Calvin était théologien et pasteur, d'accord, oui. Je pense aux grands éditeurs de l'opéra Omnia de Calvin, 59 tomes, c'est trois savants strasbourgeois, Baum, Kunitz et Reuss, qui ont assuré ce monument extraordinaire, trois professeurs de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Je pense à Émile Doumergue, l'auteur de la plus grande biographie de tous les temps, Calvin, 7 énormes tomes, publiés au début du siècle dernier, Émile Doumergue, qui était doyen et professeur à Montauban. Et puis il y a Jean Cadier, il y a François Wendel, à mon avis, c'est la meilleure introduction à la pensée de Calvin, Calvin source et évolution de sa pensée religieuse, encore un professeur strasbourgeois d'ailleurs. Et ainsi de suite, et comme j'ai dit, je ne veux absolument pas dénigrer cette tradition et ses représentants à qui nous devons tous énormément de connaissances, d'analyses, de références. Ce qui me frappe simplement, c'est que les nouveaux auteurs, les auteurs du 500e anniversaire de Calvin, ont un profil très souvent autre. Bernard Cotteret, que vous avez écouté, c'est ça, oui. Bernard Cotteret, qui est professeur de littérature anglaise à l'origine. Olivier Millet, déjà cité, prof de littérature française. Yves Krummenacker, professeur d'histoire moderne. Olivier Abel, philosophe. Et si vous insistez, moi j'étais à l'origine linguiste et prof de français, qui a été recyclé pour devenir historien de la réforme. Simple constatation, ces auteurs s'intéressent à Calvin sous des angles plus diversifiés et autres que les écrits du début du XXe siècle. Contre-exemple, j'ai voulu, pour des raisons que vous verrez tout à l'heure, consulter les références au prêt à intérêt ou à l'usure dans l'institution de la religion chrétienne. Il y a un magnifique index des thèmes et des sujets dans l'institution produit par le très vénéré Rodolphe Peter de Strasbourg également. C'est un ouvrage assez important en soi. Pas de mention ni de prêt à intérêt, ni de l'usure, ni à tout ce qui pourrait être la pensée économique. Rodolphe Peter, encore, c'était un historien et surtout théologien. Mais dans la foulée des écrits actuels, pour ainsi dire, il y a des lumières qui viennent de beaucoup de différentes disciplines, sociologie, linguistique, histoire sociale, économie, anthropologie, philosophie. Un nouvel éclairage donne de nouvelles réflexions quand même, de nouvelles idées. Bon, dans tout cela, Calvin peut bien rester une figure historique à visiter comme un monument du passé. Après tout, l'histoire de Calvin et de Genève, à mes yeux, reste assez passionnante en soi, sans avoir à aller plus loin. Mais si on pose la question de l'actualité de Calvin, qu'est-ce qu'on peut dire? Le thème de ce que je vais exposer maintenant, et j'espère que ce n'est pas trop banal pour tout le monde, c'est que l'actualité de Calvin n'est pas immédiatement ce que Calvin a dit. Mais l'actualité de Calvin part de ce que Calvin a dit et suit des méandres, des contradictions, des changements de direction, absorbe d'autres éléments, parfois des choses totalement opposées à Calvin, pour aboutir à quelque chose où on peut reconnaître encore, oui, la pensée d'origine, mais ce que nous avons maintenant, c'est vraiment quelque chose que Calvin lui-même ne reconnaîtrait pas. Je vais essayer d'exemplifier ce thème par deux exemples qui ne sont pas théologiques en soi, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Calvin et le capitalisme, Calvin et la démocratie. Bon, allons-y. Notons d'abord pour Calvin et le capitalisme, il y a quelque chose d'assez concret et simple et précis à définir. C'est que Calvin était le premier théologien de taille de tout le christianisme à reconnaître un usage légitime du prêt à intérêt. Jusqu'à lui, et encore pour la plupart, pendant deux siècles encore, j'ai un traité du XVIIIe siècle, le traité de l'usure, qui explique que c'est strictement interdit. Tout était une interdiction globale, basée d'ailleurs sur Deutéronome et Lévitique. Bon, d'accord. Calvin suggère qu'il faut définir, il faut distinguer entre le prêt qui est le prêt de consommation, si vous prêtez à quelqu'un parce qu'il veut s'acheter une nouvelle voiture dont il n'en a pas besoin, acheter une nouvelle voiture parce qu'il en a besoin, mais il n'a pas les ressources. Si vous demandez de l'intérêt sur ce prêt, vous exploitez le besoin de votre voisin. Plus simplement, sans parler de voiture, c'est trop grand, mais prêter quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, dont vous n'avez pas besoin de votre superflu, c'est une action de la charité chrétienne, c'est de l'aumône pour ainsi dire, et on n'a pas le droit de demander d'intérêt. Par contre, le prêt de l'entreprise ou le prêt de production. Hein, c'est une nouvelle idée et ça permet à Calvin de contourner les interdictions bibliques. Parce que il fait face, et c'est ça très important, à une nouvelle situation qui n'était pas la situation des auteurs de Deutéronome et de Lévitique. Le monde moderne qui se développe de plus en plus dans une situation d'argent, de financement, Vous n'avez qu'à étudier un peu l'histoire de la banque au XVIe siècle, vous verrez très bien à quel point l'argent prend une position dans la société qui n'était pas celle de l'époque de l'Ancien Testament. Et dans ce cas-là, Calvin a l'intuition, observe que l'argent, ça vaut comme n'importe quelle denrée, n'importe quel produit, comme on dit maintenant. J'ai une maison, je loue la maison, j'ai le droit de faire un profit de la location. J'ai des objets à vendre, j'ai le droit de percevoir un bénéfice sur ma vente. De même, j'ai de l'argent, et cet argent-là peut former, pour ainsi dire, un produit économique comme tout objet, toute denrée. Et dans cette situation-là, il n'est pas interdit de demander un intérêt comme on demande un profit, sur un bénéfice sur un objet que l'on vend. La question immédiatement se pose, combien ? À Genève, au XVIe siècle, c'était resté plus ou moins la norme, 5%. Il y avait d'autres situations en France où il y avait des fragilités, les incertitudes de reprendre son bien, ça montait jusqu'à 12%. Et parfois, ça allait beaucoup plus loin. Par exemple, les guerres d'Italie, entre la France et l'Italie, qui ont pris fin en 1559, sont pris fin parce que ni les Français ni les Italiens ne pouvaient plus financer leurs armées, parce qu'aucun banquier ne voulait prendre le risque. Ou bien, si ils acceptaient de prendre le risque, c'était à 50% sur une année terminale. Bon. C'est-à-dire, une chose bien sûr à rappeler, il ne fallait que Calvin est arrivé, j'ai dit, le premier grand théologien à dire que le prêt à intérêt n'était pas globalement interdit. Par contre, qu'est-ce qui se passait avant ? Il y avait des banques, il y avait des prêts, je viens de parler des rois de France qui empruntaient des quantités d'argent pour financer leur guerre, etc. etc. Bon, on contournait en disant, tu me prêtes de l'argent, bon, j'accepte, c'est très gentil, et je promets à tel terme de te rendre ton argent, il n'y a pas d'intérêt en question, mais je te fais un don volontaire pour te remercier. Gentil. Ça ressemble drôlement à de l'intérêt, mais on ne le dit pas. Bon. Alors, le prêt à intérêt, c'est un point précis où on peut dire, voilà, Calvin a apporté un point dans une longue chaîne d'évolution de points qui ont été à l'origine du système bancaire, du système monétaire, du système économique de nos jours. Il faut dire que Calvin ne reconnaîtrait absolument pas les banques d'aujourd'hui, et particulièrement pour une chose fondamentale que je n'avais même pas pensé nécessaire de le dire, mais il faut le dire pour compléter, que pour Calvin, tout le contexte des rapports monétaires d'argent comme tout le reste doit s'être basé sur la charité. Plus simplement, mais plus largement, il faut une certaine moralité dans toutes les activités économiques comme les autres. Et là, tout de suite, je vous vois réagir immédiatement. Ça, c'est quelque chose où Calvin aurait besoin de redire certaines pensées. Bon. Thème Calvin et le capitalisme va beaucoup plus loin. Et je voudrais surtout, quand même, soulever le grand débat lancé il y a un siècle par Max Weber, grand sociologue, dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Paru en 1904-1905, traduit en français en 1926. Bon, la thèse de Weber peut se résumer en simplifiant outre mesure. 1. L'idée de vocation, qui, dans l'Église médiévale, était une notion strictement religieuse. Vous avez une vocation pour être prêtre, pour être religieux, pour être religieuse, mais pas pour travailler dans le monde, comme on disait. Alors, selon Weber, la notion de vocation chez Calvin s'applique non seulement aux idées, pratiquement aux vocations religieuses, mais à toute vocation légitime. On peut avoir la vocation d'être marchand, artisan, architecte, maçon. Je ne pense pas que banquier figure sur cette liste d'ailleurs, mais ça c'est à côté. Le travail est sanctifié, et ça c'est fondamental, le travail dans le monde est sanctifié à côté du travail du prêtre ou du moine. Et on arrive à ce qui s'appelle « work ethic », l'éthique du travail. On reviendra sur la critique de cette thèse tout à l'heure. Deuxième point, un bon travail produit de la richesse. Auparavant, selon Weber, la richesse convertissait rapidement en article de luxe, en palais, en vêtements, en bijoux, en œuvres d'art. Toute la Renaissance est le résultat de la richesse obtenue par des gens qui ont réussi financièrement. Commencez par les Médicis. Mais l'ascèse calviniste interdisait de telles extravagances. On devait appliquer donc le fruit du travail à l'élargissement de l'entreprise, quelle qu'elle soit. La fortune grossissait l'entreprise. C'est circulaire, spirale. D'où les empires commerciaux du XVIIe siècle, la Hollande, l'Angleterre, les pays protestants, voilà. Tandis que il faut voir la stagnation économique des pays catholiques du sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal. Tout ça est très séduisant et profondément déformant. Ce n'est pas vrai en tant que tel. Et depuis un siècle, la thèse de Max Weber a été systématiquement démontée à plusieurs reprises, sans jamais disparaître tout à fait. Reprenons l'essentiel du débat. Primo, le premier point, c'était la vocation. Or, en fait, la notion de vocation telle qu'elle a définie Weber et l'attribue à Calvin, ça s'applique beaucoup davantage à Luther. Pour Calvin, la vocation, c'était plutôt un frein pour empêcher les gens de divaguer, de déborder dans tous les sens. Ce n'était pas la valorisation du travail comme c'était dans les écrits de Martin Luther. Deuxième point, la tendance dépensière d'avant Calvin, selon Weber, n'a quand même pas empêché la création d'énormes empires financiers, voire les Médicis, voire les Fougueurs, pour ne parler que des plus célèbres. C'est un peu simpliste de dire les gens avant Calvin dépensaient tout leur sou en palais et en vêtements. Non, c'est pas vrai. Et surtout, et plus fondamentalement, Weber base sa démonstration non sur les doctrines et sur la pratique de Calvin lui-même, mais sur les idées développées un siècle plus tard, deux siècles plus tard même, et surtout dans les colonies de l'Amérique du Nord. Or, les pères pèlerins, the founding fathers, les pilgrim fathers, les pères pèlerins qui ont fondé la première colonie de l'Amérique du Nord n'étaient pas de bons calvinistes du tout. Au contraire, ils étaient des réfugiés qui trouvaient difficile à supporter ces calvinistes trop rigides et qui n'aimaient pas leur point de vue. Ils représentaient une déviation par rapport à Calvin, plus proche de ce que nous appelons aujourd'hui des congrégationalistes. Je vais expliquer tout à l'heure, quand on arrive à la démocratie, en quoi ça consiste, notamment. Mais les pères pèlerins, les membres de cette première colonie, ont développé leur propre réponse à des situations qui n'étaient pas celles de l'Europe qu'ils avaient délaissée, qui n'étaient surtout pas celles de Genève. Et là, j'ai introduit tout de suite un petit à côté pour dire simplement que Genève était une ville pratiquement sans arrière-pays. Il y a très peu de campagne autour de Genève. Très peu. Et la structure ecclésiale, la structure administrative conçue par Calvin pour Genève s'appliquait à cette situation d'une ville-État avec un potager autour, quoi. Très, pas beaucoup. Tandis que dans le Nouveau Monde, il y avait de vastes espaces vides, sauf pour les Indiens, mais passons, à de vastes espaces de terres cultivables et très peu de villes, et les villes étaient petites. Alors, structurer une société obligeait nécessairement de modifier les structures proposées par Calvin pour Genève. Modifier aussi les doctrines, parfois en les simplifiant. Je pense à un exemple, « Suis-je sauvé ?» Dans une situation de la prédestination, tel comme c'était le cas pour les calvinistes, les réformés de l'époque, « Est-ce que je suis sauvé ?» C'est une question lancinante. Et comment est-ce que je le sais ? Calvin lui-même refusait toujours de répondre clairement à cette question. Ce n'était pas le cas pour les premiers colons dans la Massachusetts, dans la Nouvelle-Angleterre. Ils ont développé un rapport avec justement la situation de la finance qui répond à cette question par ce qu'on appelait le syllogisme pratique. C'est-à-dire, j'ai un succès commercial qui est dans les normes prescrites par Dieu parce que je travaille. Et j'ai un succès commercial. Or, le succès commercial montre qu'on est parmi les élus de Dieu. Donc, comme je suis riche, je suis parmi les élus de Dieu. Et c'est visible. Et il y a d'autres définitions de la visibilité, j'insiste sur le mot, parce qu'il y a une expression qu'on ne trouve jamais, c'est Calvin, et on trouve justement en Nouvelle-Angleterre, c'est « visible saints », des saints visibles. On pouvait identifier les saints par, bon, leur bonne conduite, bien sûr, mais aussi par leur succès, et ainsi de suite. Alors, tout cela, c'est radicalement autre que la doctrine de Calvin. Weber, quand même, il l'utilise dans sa démonstration de Calvin et le capitalisme. Alors, c'est tout de même un peu fragile. De Calvin au capitalisme moderne, surtout, il y a très loin. Je saute. Oui, une autre chose que dans le développement du capitalisme moderne, où il y a de façon permanente l'introduction de nouvelles situations sociales. J'ai parlé du paysage, pour ainsi dire, la campagne, la Nouvelle-Angleterre, dans d'autres situations, et bien sûr dans la situation intellectuelle de la pensée qui évolue. Un type qui s'appelle Descartes, qui quand même est arrivé dans les années 1630-40. Il y a un certain terrible juif qui s'appelle Spinoza, très très intelligent, qui pose de nouvelles questions, sans parler au XVIIIe siècle de l'âge des Lumières. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Et tout cela oblige les gens qui préfèrent ne pas fermer les yeux et les oreilles et continuer à dire « Calvin a dit, Calvin a dit », il faut développer, il faut évoluer. Et c'est ce qui s'est passé dans la situation du XVIIIe siècle, en particulier par la laïcisation de la morale. Pour devenir au XXe siècle et au XXIe siècle, la disparition pure et simple de toute morale du monde de la finance. Hélas, pour revenir à Calvin peut-être. Calvin est la démocratie. On plaisante, non ? Calvin, dictateur de Genève, vous avez mentionné Bolsec, mis à mal par Marianne Burkhardt, très bien, Carbonnier Burkhardt. La légende noire de Bolsec jusqu'à Stefan Zweig de nos jours présente Calvin, non pas démocrate, non, Calvin dictateur de Genève. Mais je suis tenté toujours de commencer à parler sur ce sujet-là, il faut l'éviter. Calvin et la démocratie, c'est un autre thème à côté du Calvin dictateur, c'est un thème que Olivier Abel a voulu aborder.
Il y viendra peut-être avec les questions.
Oui, il y a un grand article dans Le Monde des Livres au printemps de Denis Crouzet qui était intitulé « Calvin spirituellement démocrate ». Super, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très joli comme titre. Calvin et la démocratie moderne. Il faut dire qu'il faut chercher un peu loin pour trouver exactement l'enchaînement. Parce que Calvin n'était pas démocrate. Ça, c'est clair. Il avait les points de vue de son époque sur les formes de gouvernement et ça ne comptait pas du tout un élément démocratique dans un sens moderne. Pour Calvin, pour toute son époque, il y a trois formes de gouvernement. Il y a monarchie, il y a aristocratie, il y a république. Les trois sont valables parce que, et c'est évidemment un des thèmes, parce qu'il y a des exemples bibliques pour justifier les trois formes de gouvernement. Et donc, les trois sont parfaitement acceptables et corrects. Le rôle du croyant, c'est d'accepter la situation où il se trouve. Si je suis dans une monarchie, j'accepte une monarchie, avec des exceptions très limitées qui vont être développées plus tard. Donc, il y a trois formes de gouvernement et trois déviations, trois entorses à ces formes de gouvernement. La monarchie peut dégénérer en tyrannie. L'aristocratie, qui, selon le mot grec, veut dire le gouvernement par les meilleurs, Aristos, les meilleurs, peut dégénérer en oligarchie. C'est-à-dire par un petit clic, un petit groupe. Et la République peut dégénérer en démocratie. C'est-à-dire gouvernement par la foule. C'est-à-dire pour dans l'esprit de Calvin et de ses contemporains, pas de gouvernement du tout, c'est désordre. Et le mot « ordre » est quelque chose, on pourrait faire des thèses et des thèses sur la présence du mot « ordre », particulièrement chez Calvin. Le désordre est ce qui est évité à tout prix. Dans la structure que Calvin préconise pour l'Église réformée, il y a un modèle qui pourrait également servir pour l'État politique. Et je vais insister sur une chose particulière, c'est que dans la structure de l'Église, selon Calvin, il y a les quatre ministères. Il y a les pasteurs qui sont responsables de l'administration de la parole et des sacrements. Il y a les docteurs, les enseignants, qui sont responsables pour l'enseignement, et ça n'a jamais eu un succès fou, le ministère des docteurs, pour des raisons historiques qui ne sont pas particulièrement éclairantes. Il y a troisièmement les anciens, et là nous sommes au cœur du système presbytéral, le presbytère veut dire ancien, justement. Et j'ajoute aussi, il y a les diacres, quatrième ministère, diacres responsables de l'aumône, distribution de l'aumône et gestion de l'hôpital. Les anciens sont des laïcs, comme les diacres. Les anciens sont des laïcs qui, avec les pasteurs, gèrent le consistoire, c'est-à-dire la structure centrale de discipline dans l'Église. D'autres diraient du contrôle du peuple. Cette idée de la présence dans le ministère de l'Église de laïcs est quelque chose de très original et très important. Ça existe toujours dans le système presbytérien de certaines de nos églises encore de nos jours. Mais, et nous faisons ici un des exemples de cette déformation, je dis Calvin que le calvinisme c'est un exemple de déformation fructueuse. Et première déformation fructueuse dans la doctrine de Calvin arrive très tôt, avant la mort de Calvin, avec un certain Jean Morelli, qui disait, attendez, les anciens, ce sont des laïcs, et ce sont des laïcs représentants de toute la communauté, et pourtant toute la communauté doit avoir une responsabilité morale et bien organisé à l'intérieur de l'Église. Pourquoi choisir des anciens quand tout le monde devrait participer à ce rôle des laïcs dans l'Église? Et c'est l'origine de la notion que j'ai mentionnée tout à l'heure, le congrégationalisme, c'est-à-dire toute la congrégation, tout le peuple des fidèles a le droit de participer à la gestion de la communauté. Cette idée était violemment contestée par Théodore de Bèze, par Pierre Viret. Calvin était déjà trop fatigué pour dénoncer, mais il n'approuvait certainement pas cette déformation. Ainsi, la communauté créée par Robert Brown en Angleterre vers les années 1580, on ne sait pas s'il était directement influencé par Morelli ou si c'est une influence indirecte. De toute façon, Robert Brown a créé une communauté de congrégationalistes, de proto-congrégationalistes, qui ne se sentait absolument pas confortable avec la présence de l'Église anglicane, qui n'aimait pas du tout cette doctrine de la responsabilité de tout le peuple. Il a emmené sa sa communauté aux Pays-Bas. Il s'est installé à Leyde, où il avait des calvinistes trop stricts pour lui, et qui rejetaient cette idée de congrégationalisme qui était important pour Robert Brown et ses successeurs, et ses disciples, pour ainsi dire. Et c'est comme cela que ils sont expatriés une deuxième fois, et ils ont pris le bateau pour le Nouveau Monde, et ce sont là les pères pèlerins, les pères fondateurs de la première colonie de l'Amérique. C'était donc pas du tout des calvinistes, enfin, c'était des calvinistes déformés, si vous voulez. C'était les disciples de Robert Brown, ce qu'on dirait aujourd'hui les congrégationalistes. Dans le pacte du Mayflower, que tous les membres de cette première colonie ont juré avant de se disperser dans les nouvelles terres, ils ont promis, je cite, d'établir telle loi juste et égale qui sera jugée opportun et convenable pour le bien général de la colonie. Très bien, très sage, très équitable, etc. Il y a un petit problème. Ils ont agi comme s'ils étaient seuls. Et je ne parle même pas des Indiens qui ont été traités, comme vous le savez, pas très bien. Je parle du fait qu'à tout moment, depuis la fondation de la colonie jusqu'à l'indépendance américaine, il n'y avait pas plus de 20% de membres de l'Église protestante dans la colonie de Massachusetts. Et pourtant, c'est eux qui allaient donner des lois justes et équitables pour toute la colonie, y compris ceux qui se proclamaient là, non pas pour fonder la terre promise, mais pour attraper des poissons. C'est une expression que je cite, c'est un businessman de Boston qui a interrompu un sermon qui parlait justement de la terre promise et de la vocation de propager l'évangile dans les nouvelles terres. Et ce monsieur a parlé au nom de la plupart du peuple en disant « But we are here to catch fish ». Nous sommes là pour attraper des poissons. Ce qui n'est pas très moral. Bon. Autre évolution. Ah oui, pardon. Pendant le premier siècle de cette colonie, ces 20% de la population qui étaient membres de l'Église étaient les seuls qui avaient le droit de vote. Alors, c'est pas très démocratique, avec 80% de gens qui attrapent les poissons. Ensuite, en 1691, on a décidé que c'est pas très démocratique. Non, on remplace par un nouveau critère, celui, on ne parle jamais de celle qui, on aurait pu théoriquement parler, mais les femmes n'étaient pas très riches à l'époque, celui qui a au moins 40 shillings, 40 sous de revenus taxes foncières. C'est-à-dire, c'est un critère économique et non pas religieux, tout aussi exclusif, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui payaient 40 shillings en taxes. Mais c'est simplement un exemple de cette série d'entorses par laquelle l'idée d'origine de Calvin devient quelque chose de tout à fait différent. On est encore loin, bien sûr, de la notion moderne de la démocratie, je présume que c'est ça, qui est un homme, un vote de la démocratie moderne. Il fallait encore bien des étapes intellectuelles avant